un itinéraire de sainteté sur des chemins imprévus. Saint-André Hubert Fournet, fondateur de la Congrégation des Filles de la Croix. Retransmission du colloque qui s'est tenu à Poitiers le 30 novembre 2002. Aujourd'hui, nous retrouvons le père Jean-Paul Russel, prêtre du diocèse de Poitiers, pour la seconde et dernière partie de son intervention consacrée à la spiritualité du père André-Hubert Fournet.
Troisième trait important pour nous, je crois, c'est à cette lumière de la croix et de la résurrection, donc du mystère pascal, qu'il est possible d'interpréter le langage de mortification et de renoncement largement utilisé par le père Fournet. Évidemment, le langage qu'il prend, il faut le resituer au début du 19e. On ne peut pas le relire de nos hauteurs à nous. Ce serait faire de l'histoire à contresens. Hein. Il faut le remettre dans le contexte. Et ce langage de mortification et de renoncement traduit le combat spirituel qu'il convient de mener contre soi et contre le péché. C'est donc ce thème du combat spirituel que je voudrais privilégier ici, parce qu'il est très beau, à mon sens, son langage est très intéressant. Nous sommes au sortir de la Révolution française et du culte de l'être suprême. Nous sommes encore dans le contexte d'une influence pratique du jansénisme. Et donc, dans ce contexte-là, l'humanité de Dieu dont témoigne sa correspondance doit être saluée. Je voudrais saluer ici l'humanité de Dieu dont témoigne sa correspondance. Je voudrais le faire de deux façons. Tout d'abord, André Hubert fait appel au langage du cœur. Il fait appel au divin cœur de Jésus, et je cite encore, « à ce divin cœur qui vous aime ». Pour lui, encore une autre formule, « on ne craint rien quand on aime », hein, ce qui n'est pas sans évoquer Saint Jean qu'on fait aujourd'hui. Hein. Ou encore, « quand on aime, on ne craint rien de la personne aimée ». Et dans les tentations et les épreuves, il invite au courage. Alors, le mot « courage », est construit sur le mot « cœur ». Le conseil est précis encore. « Adressez-vous au divin cœur de Jésus et vous serez victorieuse. » Donc la victoire est toujours dans l'ordre du combat. Et le mot « cœur », évidemment, ici, ne relève pas du langage des émotions. Mais il doit être entendu dans son sens biblique, interprété par les maîtres du XVIIe. C'est le lieu du discernement. C'est le lieu de la confiance. Et on pourrait dire que sa compréhension du péché redouble encore cette humanité de Dieu, attestée par ses lettres. Il dit ceci, « C'est le consentement qui fait le péché et non la pensée ou le sentiment. » Je trouve qu'il a une conception du péché très libérante et très très juste, au sens où il engage vraiment une rupture d'alliance baptismale et que le pardon est remis en alliance baptismale. Et encore une autre phrase. « Tout ce qui est en nous, malgré nous, n'est pas péché, ce n'est pas la pensée, le sentiment même du mal, mais le consentement de la volonté qui fait le péché. Sans le consentement de la volonté, on ne pécherait pas. » D'où tout le langage qui viendra par la suite, mais alors encore en écho au maître d'école française, « volonté de Dieu et volonté propre » ou « amour propre » et « volonté de Dieu hein ». Les deux expressions, ce combat qui se joue, comment passer de la volonté propre à la volonté de Dieu. Hein, on voit bien ce travail de discernement. Ainsi, le langage des mortifications et des renoncements ne constitue pas un en-soi. Il est bien plutôt à situer dans une spiritualité qui prend au sérieux le fait de l'incarnation de Dieu dans nos histoires d'hommes et de femmes avec les combats inhérents à toute existence humaine. Alors, ce thème de l'incarnation, hein, vous le savez, est très cher à l'école française. C'est l'école française qui nous a aidés à y entrer, et que Bérulle, eh bien, c'est l'apôtre du Verbe incarné. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le pape Urbain VIII. Donc on peut le croire, malgré tout. Non, tout à fait, il est reconnu de cette façon-là, l'apôtre du Verbe incarné. Donc, vous voyez ce thème du combat spirituel qui est classique, évidemment, depuis la vie d'Antoine, écrite par Athanase d'Alexandrie, hein, c'est un grand classique, ou celle de Martin, ici, écrite par Sulpice Sévère. Mais il faudrait remonter plus loin, Jésus lui-même. Demandez-vous pourquoi la vie publique de Jésus commence par le récit de trois tentations au désert où il est conduit par l'Esprit ? Notez bien, conduit par l'Esprit pour y être tenté au désert par trois fois, et qu'à l'heure de la croix, il est encore tenté trois fois, notez bien. Autrement dit, au début de sa vie publique, il est tenté, et à la fin de sa vie publique, il est encore tenté trois fois. D'accord ? Pourquoi faut-il que nous soyons tentés pour advenir à nous-mêmes ? Voilà une bonne question à se poser, non ? La tentation, et donc le combat spirituel, appartient à notre existence humaine. Jésus lui-même n'y a pas échappé. Et sa condition humaine a commencé dans des récits de tentation, et à l'heure de la croix, il s'achève encore dans trois tentations, mais à l'heure de la croix, il répond par le silence, car c'est sa vie qui parle pour lui. Alors que dans la réponse aux trois tentations, au début de sa vie publique, il se mettra sous la loi du Père et il citera toujours la première alliance. Mais ce n'est pas le moment de développer comment Jésus traverse les tentations. Mais voilà quelque chose à méditer pour nous. Comment est-ce que Jésus lui-même a traversé la tentation ? Eh bien, je trouve fondamental ce point dans la spiritualité d'André Huber, la façon dont il aborde le combat spirituel pour passer dans la volonté de Dieu. Alors les fruits d'un tel cheminement se donnent à reconnaître, et il écrivait aux novices et postulantes, donc je l'adresse à celles qui sont concernées parmi vous, « N'oubliez jamais qu'il faut être religieuse, religieuse », c'est très beau d'ailleurs cette formule, ce redoublement du mot « religieuse, religieuse ». Je trouve ça très beau. « Et qu'une vraie fille de la croix est une fille d'humilité, de pauvreté, de détachement, d'obéissance, de patience, de douceur, de recueillement. » Évidemment, ce n'est pas sans évoquer les fruits de l'esprit dans la lettre aux Galates. Vous y reporterez en Galates 5. Quatrième thème majeur, me semble-t-il, chez André Huber, du moins à travers ses lettres, parce que là, à travers l'analyse des lettres, c'est que le Père Fournet fait souvent référence à l'Esprit-Saint. Alors ça, c'était une découverte pour moi. Il dit ceci, je le cite, je reprends ses expressions, « En suivant ses lumières, ses inspirations, c'est encore une de ses formules, il convient de lui être, et je le cite encore, toujours docile, en vivant dans sa dépendance. » Pour ce faire, il dit ceci, il s'agit de l'écouter, de le consulter. Ce sont des verbes très intéressants. Et je le cite encore, « Puisque vous recevez la vie du Saint-Esprit, laissez-vous conduire par lui. » Laissez-vous conduire par lui. Et donc cette liberté spirituelle se prolonge en deux recommandations. Tout d'abord, j'en ai repéré deux dans les lettres. « Prenez garde de le contrister. » Voilà une formule paulinienne. « Prenez garde de le contrister. » Ensuite, « Craignez la tiédeur. » Elle chasse le Saint-Esprit des cœurs. C'est juste, Craignez la tiédeur. Elle chasse le Saint-Esprit des cœurs. Et alors, cette façon d'introduire la vie dans l'esprit, pour moi, instinctivement, ça me renvoie aux écrits de Jean-Jacques Ollier. Jean-Jacques Ollier, évidemment, a une vie dans l'esprit tout à fait étonnante. Vous savez qu'une formule qu'il livrait volontiers à ses premiers compagnons, et dont il a fait quasiment sa devise, c'est ceci, « se laisser à l'esprit ». Se laisser à l'esprit, à lui-même, dans sa propre vie pastorale, dans ses propres décisions, dans sa façon de se comporter, il ne faisait rien dont il n'ait perçu la motion intérieure à faire. C'est assez étonnant chez lui, C'est assez étonnant chez lui. Alors c'est ici que je voudrais relever, dans ce quatrième point, la façon dont le Père Fournet fait allusion à l'Écriture. Vous voyez ? Elle n'est jamais citée explicitement, mais elle imprègne constamment son propos. Alors il y a une expression qui revient plusieurs fois, je crois, je ne l'ai pas raconté avant de venir là ce matin, mais j'ai mis les références des différentes lettres, mais 7 ou 8 fois, peut-être 9. Il dit ceci, « Si vous connaissiez le don de Dieu dans votre vocation et votre mission, vous répéteriez « Mon âme glorifie le Seigneur ». Donc, référence au Magnificat. Cette référence à l'entretien entre Jésus et la Samaritaine, si vous connaissiez le don de Dieu, appelle une réponse, « Je suis la servante du Seigneur », qui est également citée plusieurs fois. Et donc on peut dire que le Magnificat, donc Annonciation, Visitation, voilà deux récits évangéliques où on voit affleurer sa spiritualité mariale, et sans doute qu'il faudrait ajouter, bien sûr, de par les constitutions, les premières constitutions, la crucifixion. Il me semble qu'il y a trois moments où affleure sa spiritualité mariale, à travers les lettres en particulier, c'est Annonciation, visitation, crucifixion. Cette réponse de Marie, il nous faut y reconnaître, bien sûr, une attitude spirituelle, c'est l'attitude de disponibilité. Attitude de disponibilité, vous savez bien qu'il n'y a pas de vie spirituelle qui ne commence dans la disponibilité intérieure. Je vous renvoie volontiers ici aux exercices spirituels Saint Ignace, hein, première page, le principe et fondement. Hein. Cette sainte indifférence que cherche à ouvrir en nous Ignace, dans cette page, évidemment, c'est l'attitude de disponibilité. Cinquième trait, eh bien, le détachement de l'amour propre. L'amour propre, c'est une expression qu'il utilise, hein, qui est venue jusqu'à nous, mais qui nous vient des maîtres de l'école française, ouvre au service des autres. Alors, je voudrais dire ceci, c'est qu'il y ait le service des autres dans le clergé du temps, c'est reconnu par tout le monde, même par les philosophes du XVIIIe. Hein, Voltaire a de très belles pages sur les curés du temps, qui sont des prêtres médecins, qui guérissent par les plantes, qui travaillent au progrès, à l'humanisation des gens. Simplement, ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne s'agit pas, pour André Huber, d'être un curé philanthrope, comme il y en avait beaucoup à ce moment-là. Il l'enracine lui-même dans sa propre foi. Et la phrase, à mon avis, qui le guide ici, c'est une phrase de Paul, « La charité du Christ nous presse ». C'est la deuxième aux Corinthiens. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Et la charité, si vous allez voir le mot grec utilisé, parce qu'il y a trois mots grecs pour dire amour, hein, évidemment, eh bien, c'est l'agapé, ce mot forgé par saint Paul, l'agapé de Dieu. Or, l'agapé, c'est l'amour de libre donation de soi. Eros et agapé, il nous faut passer du eros à agapé. Et passer à agapé, l'amour de libre donation de soi, voilà donc ce qui sous-tend le service des autres chez André Huber. Et deux traits se détachent ici, me semble-t-il, deux éléments permettent de traduire en acte l'agapé de Dieu, selon la formule des premières constitutions des filles de la croix. Je cite, « Leurs œuvres sont l'instruction des pauvres de la campagne. Elles visitent les pauvres malades pour les instruire, les consoler, leur procurer des secours, les soigner, les préparer à la mort. » Ou encore, dans une des lettres, il s'agit donc de traduire en acte le zèle pour le salut des malades et des enfants. Et donc, cette expression de la charité du Christ s'enracine dans la méditation de ses états. Et c'est le mot « état » qu'on trouve dans la première page là, des premières constitutions, qui est un terme des Béruliens, hein. Et donc, il invite à méditer, enfin, la première page des constitutions invite à méditer sur ces états. Et donc, c'est à cette lumière des états de Jésus qu'il est possible de choisir un état de vie. Et les premières constitutions, je ne sais pas, peut-être vous l'avez gardé dans la constitution actuelle, je ne sais pas, mais cite Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. » Et on voit bien ce thème de la séquela Christi qui apparaît là. C'est donc la référence christologique qui ouvre les premières constitutions. Et chez Cousseau, eh bien, on trouve le témoignage. Hein, on trouve ce témoignage de la charité du Christ reconnu dans André Huber. Il dit ceci, « Cette puissance surhumaine de la charité s'est manifestée d'une manière bien éclatante par les œuvres d'un pauvre prêtre. Cet homme, à peine connu du monde, sans autre fond que celui de la Providence, sans autre crédit que sa piété, est parvenu à procurer le bienfait d'une instruction chrétienne à des milliers d'enfants, à secourir un nombre infini de malades depuis Bayonne jusqu'à Cambrai, et à prolonger au-delà des bornes de sa vie les œuvres que sa charité avait conçues. » Donc on voit bien André Huber en itinérance. De Montmorillon à Poitiers, il y avait deux jours. Il fallait deux jours à l'époque, hein, il faut se dire ça. Hein. Ah, moi j'ai mis 35 minutes pour venir ce matin. Hein. Hein, c'est-à-dire... Tout est changé dans les façons de vivre. Cette charité s'enracine dans la figure du bon pasteur. Et ici, je vous renvoie bien sûr à Jean 10, hein, la figure du bon pasteur. Je vous cite, je ne résiste pas à vos plaisirs de vous lire un passage de sa lettre au curé de Saint-Romain-les-Mêles. Il dit ceci, « Tâchez d'être au milieu de ce peuple comme y est le souverain pasteur, cherchant la brebis égarée, l'attendant avec patience. Rappelez-vous les paroles qu'il adressa à ses apôtres en leur donnant leur mission ?» Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Commentaire. Plus vos paroissiens seront loups, plus vous devez être agneaux. Ah, vous savez, il y a de quoi méditer avec ça. Hein, c'est de toute beauté. C'est une perle, c'est digne des pères de l'Église. Hein. C'est très juste. C'est très très juste. Non seulement c'est profond, mais c'est vrai. Alors, il exerce son ministère pastoral par un souci d'éducation de la foi. Oui, j'étais très frappé par les lettres 122, 123. Ils sont très longues. Il prend le temps de catéchiser les personnes. Alors, avec l'apologétique du temps, hein, pas l'apologétique des preuves, comme on faisait en ce temps-là, mais c'est beau. L'apologétique a ses raisons d'être. Il faut pratiquer l'apologétique, même encore aujourd'hui, je crois, dans certains domaines, bien sûr, il ne faut pas hésiter. Mais c'est très beau, c'est très édifiant. Oui. Mais aussi dans la vie sacramentelle, spécialement dans l'Eucharistie. Et vous savez, les heures qu'il passait à prier devant l'Eucharistie. Je cite juste une phrase ici. Il exprime l'invitation à communier assez plusieurs fois. Hein. « Celui qui me reçoit demeure en moi et je demeure en lui, nous dit-il. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Tel est le grand miracle qu'il continue de faire dans l'Eucharistie, en changeant le pain en son corps par le ministère de ses prêtres. De là le grand précepte de communier dignement. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez point la vie en vous. » Lettre 122 et lettre 140, hein, vous avez les mêmes formules. Hein. Et donc pour lui, toute l'existence humaine est sollicitée par une telle invitation, et vous lisez encore lettre 105, « Vivez tous les jours de manière à pouvoir communier tous les jours ». On voit bien le lien qu'il fait entre la vie sacramentelle et la vie éthique. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce qu'il ne bascule pas du côté de la piété pure, la piété eucharistique. Hein. Il la relie toujours avec notre pratique quotidienne. Voyez, c'est donc notre existence elle-même qui est destinée à devenir eucharistique. Ce dont nous posons le signe et le symbole, le sacrement, finalement, nous avons à le traduire quotidiennement. C'est quand même très intéressant. Et ça, c'est une grande lignée paulinienne aussi. Je vous renvoie à 1 Corinthiens, chapitre 11. Hein. Paul a un problème éthique évident. Certains se saoulent pendant que d'autres n'ont rien à manger. Hein. Ça, c'est... Et il faut voir comment il répond, là, Paul. Paul a un problème éthique, répond sur un argument sacramentel. C'est quand même très intéressant. Il me semble qu'on pourrait approfondir le lien ici. Oh, voilà, c'est des pistes que je vous donne. Hein. Sa charité pastorale est largement reconnue par la population qui l'appelle communément le bon père. Un dernier trait majeur, bien sûr, avec le bérulisme, hein, c'est que André Huber porte le souci de la relève. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le sixième trait. André Huber porte le souci de la relève. Par exemple, à une lettre, à une personne, deux personnes, il répond ceci. « J'ai reçu l'offrande que vous avez faite au Seigneur pour procurer à son Église de dignes ministres. Sitôt la réception de votre lettre, j'ai fait partir un enfant pour les classes. Déjà, j'en avais mis un à la classe de Tenzet. Nous en avons fait commencer à l'appui et nous en attendons un autre dimanche. » Si vous allez au presbytère de Tenzet encore maintenant, vous verrez dans le grenier les dortoirs des enfants. Et donc, au lendemain de la Révolution française et de la réorganisation post-concordataire de l'Église, la tâche est immense. En France, le premier tiers du XIXe siècle marque l'apogée des écoles cléricales. Il en est de même dans le diocèse de Poitiers. J'ai regardé aux archives du diocèse à l'évêché, j'en ai repéré une douzaine. Je pense qu'il y aurait un petit travail à faire là-dessus. Hein. Très impressionnant. Et souvent, c'est lié au curé du lieu. Et ça va tenir, ces écoles vont tenir le temps où le curé sera là. Certaines vont tenir 3 ans, d'autres 30 ans. Hein. Mais c'est très lié à la personnalité du prêtre. Hein. Alors, c'est le cas pour André Huber. Et il rassemble lui-même quelques enfants à Maillé pour leur apprendre les premiers rudiments nécessaires à leur formation ultérieure. Et on peut dire, je crois, qu'il a contribué à l'appel et à la formation d'environ 40 prêtres au service du diocèse de Poitiers. Cousseau a un très beau témoignage, il dit ceci. « Il aimait trop l'Église pour ne pas être touché de ses immenses besoins au sortir de la Révolution. » Vous voyez, voilà une belle formule. C'est un beau témoignage porté. Alors, il a appelé non seulement des prêtres pour le diocèse de Poitiers, mais des missionnaires. C'est ainsi qu'il a envoyé la famille Maigret, 3 garçons qui sont partis à la grande maison, qui sont devenus picpusiens, dont un sera administrateur apostolique, sera évêque en Océanie. Vous voyez ? Donc imaginez dans nos campagnes, hein, des enfants qui sans doute n'auraient pas eu d'éducation par ailleurs si l'Église n'avait pas été là, hein, pour les appeler et les former, et donc leur dévoiler leur propre vocation. Il a également songé à une société de prêtres, hein, et là je fais référence à Soba, qui parle du règlement provisoire pour les pauvres enfants et pères de la croix. Mais je pense que Somadine a dû voir le document, je suppose qu'il est en archive ici. Hein. Voilà, donc ça il le porte, il est vraiment dans son temps, et voilà une préoccupation qui est vraiment dans la lignée de l'école française, c'est évident. Alors je termine. Alors je voudrais évoquer l'acte de canonisation. J'étais intrigué. C'est pour ça que je me suis permis d'aller voir, j'ai regardé aux archives à l'évêché, et puis j'ai voulu resituer un peu dans le contexte du temps. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'André Huber a été canonisé ? Il est donc canonisé le jour de la Pentecôte 1933. Vous savez que Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, est canonisé en 1925. Ce sont les deux seuls curés de paroisse qui sont canonisés dans l'entre-deux-guerres. C'est important, évidemment, pour le remettre en contexte. Rappelez-vous, dans l'entre-deux-guerres, 1920-1940, 4000 églises sont rebâties ou construites en France. Vous voyez ? Alors, en particulier dans les villes. Dans les villes, parce que les villes se développent. Et donc la population part vers les villes. Il y a une croissance démographique dans les villes, et donc il faut construire de nouvelles paroisses. Et l'entre-deux-guerres contribue donc à promouvoir, pour justifier, vous voyez bien, ce développement des paroisses, eh bien l'entre-deux-guerres contribue à promouvoir la figure pastorale du curé de paroisse. Et cette canonisation, du même coup, peut être située à la jonction de la lignée spirituelle et apostolique initiée par l'école française. Cette lignée spirituelle a irrigué l'ensemble du clergé en France à la fin du XVIIIe siècle. Donc d'un côté, il y a l'école française, et de l'autre côté, donc, il y a irrigué l'ensemble du clergé en France, c'est clair. Hein. Et de l'autre côté, il y a la volonté pontificale de promouvoir le modèle du curé de paroisse pasteur des âmes. Là aussi, c'est clair. Lorsque le cardinal Laurenti présente André Hubert pour la canonisation, eh bien, je vous cite juste une phrase du document qui l'atteste. « Le bienheureux André Hubert Fournay, gloire et honneur du clergé de France et spécialement des prêtres qui sont à la tête des paroisses, a retracé en lui la véritable image du pasteur des âmes. » La formule est claire. C'est depuis le pape Grégoire le Grand, la cura animarum, la charge d'âme, c'est l'art des arts. Très belle formule, Grégoire le Grand, donc qui est pape en 600, et qui l'a puisé d'ailleurs chez Grégoire de Nazianze un petit peu plus tôt. Mais c'est une formule assez classique chez les pères, enfin Grégoire de Nazianze et puis Grégoire le Grand ensuite chez nous ici en Occident. Et cette formule, on va la retrouver beaucoup dans les conciles médiévaux. Et donc, dans le prolongement des conciles médiévaux, c'est la figure pastorale du prêtre que mettent en valeur les décrets de réforme du concile de Trente. Ça, c'est une grande tradition. Ça, on voit très très bien, on le voit très très bien dans les textes, ça. Et par la suite, la réforme pastorale en France, après le concile de Trente, a porté de remarquables fruits spirituels et apostoliques. Et cette réforme, chez nous en France, c'est le fait des maîtres de l'école française et des évêques qui sont issus de ces rangs. On a eu une génération de grands évêques à cette période-là. Je ne dis pas que ce n'est plus le cas, mais à cette époque-là, c'est clair. André Hubert est reconnu comme l'une de ces figures spirituelles et pastorales, héritière de cette longue histoire. Au lendemain de la Révolution, il allie ces deux dimensions, dimension spirituelle et dimension pastorale. On ne peut pas détacher l'une de l'autre lorsqu'on parle d'André Hubert, on ne peut pas détacher l'une de l'autre lorsqu'on parle de l'école française. Ça, c'est clair. Et je trouve que là, il y a là justement une parenté aussi d'André Hubert avec l'école française. Moi, évidemment, je me suis limité ici à la lignée, à la dimension spirituelle. Il faudrait voir comment consonne avec la dimension pastorale. Et il y aurait des choses intéressantes, à mon avis, pour vous aussi, sur ce qui l'a conduit à vous rassembler et à vous associer à son propre ministère apostolique. Deuxième réflexion, c'est l'année 1933. C'est une année sainte, vous le savez, 19e centenaire de la rédemption. C'est le premier point que relève l'allocution de Pie XI lors du décret de canonisation, le 8 janvier 1933, et dit ceci, « La fin dernière de la rédemption accomplie par... Quelle est la fin dernière de la rédemption accomplie par Jésus-Christ? N'est-ce pas la sainteté, la sanctification ?» Et il poursuit, « Cette année n'atteindra son but qu'à une condition, c'est qu'elle soit pour nous une année de sanctification. Nous ne devons pas seulement admirer l'héroïsme des saints, nous devons encore entendre l'appel à la sainteté qui est accessible à tout le monde. Généralement, on ne croit pas que la sainteté soit la vocation commune. C'est une erreur. Tout le monde a vocation à la sainteté. Vous voyez ? Et si longtemps on a pensé que la sainteté advenait spécialement par la vie monastique et religieuse, et on voit bien comment pour le Concile Vatican II, dans la Concilium dogmatique sur l'Église, il y a ce chapitre qui concerne l'appel universel à la sainteté, et le chapitre sur les religieux et les religieuses vient juste après celui-ci. Donc cette inversion est très intéressante à mon avis, elle gagnerait encore à être approfondie, elle aurait peut-être quelque chose à dire concernant le sens de la vie consacrée, de la vie religieuse aujourd'hui, à la lumière de cette ecclésiologie développée par Vatican II. Je pense qu'il y aurait quelque chose à travailler là, et qui serait riche, mais voyez-vous, on a déjà les jalons préparatoires dans ce texte de Pie XI qui vous concerne. Je trouve ça très intéressant. Troisième réflexion, alors c'est sur la personne d'André Hubert. Et je dois dire qu'à la fin de ce petit travail, j'en ai retiré comme un fruit important pour moi d'abord, le lien entre André Hubert et Saint Paul. Et Saint Paul. Et j'avoue que André Huber invite à aller relire Saint Paul. Et là, je vais appuyer sur deux discours officiels du moment de la canonisation aussi. Un premier qui dit ceci, il fut vraiment humble, lui qui pouvait profiter de la position de sa famille pour aspirer aux grandeurs humaines et briller dans le siècle, il s'humilie jusqu'à consacrer toutes ses énergies, toute sa générosité, son dévouement aux petits, aux humbles et aux pauvres. S'il s'est humilié, Dieu l'exalte maintenant dans la gloire. C'est donc l'hymne aux Philippiens, une fois encore, qui sous-tend ce discours. Et il me semble que ce texte paulinien caractérise l'héritage spirituel d'André Huber. Mais je vous laisse juger, c'est vous qui pouvez dire si c'est vrai. Mais toujours est-il qu'à Vêpres, tous les samedis soirs, nous prenons cet hymne aux Philippiens. C'est cet hymne qui nous fait passer dans la nuit pascale, tous les samedis soirs. Celui-ci atteste par toute sa vie que la Via Crucis est chemin de transfiguration. Ensuite, toujours selon la parole officielle de l'Église, et je cite encore, André Huber Fournet nous apparaît sous les traits, c'est Pionce toujours, hein, nous apparaît sous les traits d'un véritable apôtre. Quel zèle ardent, quelles œuvres n'a-t-il pas accompli? Quels obstacles n'a-t-il pas surmonté? Âme tellement enflammée de la charité du Christ que le champ qu'on lui a donné à cultiver ne lui suffit pas. Et alors le discours continue en évoquant la fondation des Filles de la Croix. Ainsi, sa charité pastorale l'a tenue toute sa vie en itinérance. Voilà une marque d'André Huber. Ouais. Toute sa vie en itinérance. Et c'est la condition de l'apôtre, pensez à saint Paul. Celle de l'inconfort évangélique, de la disponibilité à l'imprévu, en raison même d'une parole paulinienne déjà lue dans la lettre 120, « La charité du Christ nous presse ». Et voyez-vous, c'est cette phrase que Cousseau a choisie pour l'éloge funèbre, « La charité du Christ nous presse ». Voyez, comme la parole qui sous-tend l'itinérance de cet apôtre qu'a été André Huber. Il y a là, me semble-t-il, là aussi, une phrase paulinienne qui appartient à votre héritage spirituel, qui sous-tend le dynamisme apostolique qui a porté André Huber et qui sans doute vous porte aujourd'hui. L'agapé de Dieu nous presse. Pour André Huber, l'agapé de Dieu se réalise dans la Via Crucis. Au total, sa vie atteste que seul l'agapé de Dieu, dévoilé sous les traits du crucifié, est digne de foi. Voilà ce que j'en retire hein, dans l'interprétation, pour moi. Et là, nous nous inscrivons dans la grande lignée paulinienne. Et je pense qu'il y a possibilité ici de faire route avec André Huber, hein, et donc avec saint Paul. Et je garde une dernière leçon avec André Huber, si vous me permettez, aujourd'hui. Je pense qu'il nous invite à lire les temps de rupture comme des temps de naissance. C'est ici que je réfère acte de mémoire et non seulement d'histoire. Les ruptures que nous vivons aujourd'hui, évidemment d'une autre nature que celle qu'André Huber a connue après la Révolution française, eh bien, ces ruptures ne sont pas moins profondes que les ruptures qui se sont produites autour de la Révolution française. Les ruptures que nous vivons dans la société, non pas par mode de persécution, mais par mode de consumérisme, peut-être, aujourd'hui, par mode de mondialisation, par mode d'écrasement des petits et des pauvres, des ruptures se produisent dans la société, d'une Église qui se sent mise en minorité aujourd'hui, et donc du même coup en difficulté, si ce n'est pas la lumière de la foi qu'elle porte son propre chemin. Nous changeons de monde, que nous le voulions ou non. Je crois que nous devons prendre acte aujourd'hui, mes sœurs, que nous changeons de monde. Demain ne sera pas comme hier. Et déjà, nous avons cette traversée nous-mêmes à vivre aujourd'hui. À 250 ans d'écart depuis la naissance d'André Huber, sous d'autres formes sans aucun doute, un enjeu demeure commun. Un enjeu demeure commun. Seule la Sequela Christi façonne des apôtres brûlés et passionnés par la vie des hommes.
Vous venez de suivre la seconde et dernière partie de l'intervention du père Jean-Paul Russel, prêtre du diocèse de Poitiers, intervention intitulée « La spiritualité du père André Huber Fournet ». Un itinéraire de sainteté sur des chemins imprévus. Saint-André Huber Fournet, fondateur de la Congrégation des Filles de la Croix. Retransmission du colloque qui s'est tenu à Poitiers le 30 novembre 2002.